Claude, tu me dis deux mots.
Un des trois.
Ouais, c'est bon, je pense que c'est bon. Parle-moi normal. Là, tu vas être comme ça?
Ouais, je vais être comme ça.
Dans ce deuxième épisode, Claude va nous parler longuement de Mike Blass, qui fut l'un des criminels les plus redoutables de l'histoire du Québec. Tueur à gages et auteur d'au moins une douzaine de meurtres, il deviendra ensuite délateur et bénéficiera même d'une nouvelle identité. Sa relation avec Claude est pour le moins unique, et c'est pourquoi il était essentiel pour moi d'obtenir les confidences du célèbre reporter à ce sujet. Et parlant de criminels de renom, c'est aussi dans cet épisode que Claude me parlera de sa rencontre avec le criminel français Jacques Mérine durant son séjour au Québec.
Vous écoutez le balado 10-4, les secrets de Claude Poirier. 10-4.
Ça jouait dur dans les années 70. Les braquages, Montréal, c'était la capitale nord-américaine du braquage. Les prises d'otages, il y a eu comme une mode à un moment donné. Les criminels se sont dit, il y a de l'argent à faire là-dedans. Là.
Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais à une certaine époque, il y avait de l'argent beaucoup dans les caisses. Dans les caisses et dans les banques. Hein, des 50, 60 000, surtout les gars savaient que tel jeudi, telle date, dans 15 jours, il va y avoir 200 000 à vendre parce que c'est la paye. Alors, définitivement, il y avait des gros montants d'argent. On a changé la politique. L'Association des banques du Canada ont changé la façon dont ils opéraient. Ça a pu être le cas de faire la fin des années 80, puis 90, puis 2000. C'est plus la même chose aujourd'hui.
Ouais, puis la protection aussi des banques. Maintenant, les SAS, tout ça, ça a complètement changé.
Ben oui, c'est plus ce que c'était.
À propos, justement, des méthodes des années 70, tout à l'heure, t'as prononcé un nom qui est quand même très célèbre. T'as parlé de Blass.
Moi, j'ai connu les trois Blass. J'ai connu le premier Richard Blass, j'ai connu Mike Blass et j'ai connu Mario Blass. Alors, Richard Blass, on connaît sa carrière. La même chose au niveau de Mike Blass. Et Mario Blass, c'est un gars qui faisait des incendies criminels. J'ai même été le chercher un jour. Je l'ai conduit à l'hôpital Hippolyte Lafontaine, qui était à l'époque Saint-Jean-de-Dieu. J'ai été l'amener un matin parce qu'il avait besoin de soins. Il me l'avait demandé. J'ai même pas eu le temps de rembarquer dans ma voiture qui était sortie par la porte d'en arrière. Le psychiatre n'était pas disponible, puis j'ai été obligé de le reconduire chez sa mère. Alors moi, j'ai connu la mère également des Blass. La mère, c'est une sainte femme. Cette femme-là, elle travaillait dans un endroit, dans un bureau, et je sais pas si elle était pas réceptionniste. Et cette femme-là ne portait pas le nom de Blass. Alors, le monde parlait des activités ou lisait le journal de Montréal ou lisait la presse ou y entendait à la radio ou à la télévision. Puis là, bon, ça, tout ça, le commentaire, cette femme-là gardait ça en dedans d'elle. Personne ne savait qu'elle était la mère des trois Blass. Alors, moi, j'ai connu cette période-là.
Je voudrais que tu me racontes cette histoire assez incroyable de la façon dont Blass a pris contact avec toi. Mike Blass, pour te demander de faire l'intermédiaire pour ramener le corps de quelqu'un qu'il avait tué.
J'ai jamais vécu ça dans ma vie, puis je pensais jamais vivre ça. Un jour, le journal de Montréal a sorti en première page que la personne qui avait tué un antiquaire, la personne se faisait appeler Michel Simon, dit Mike Blass. Avec la photo de Mike Blass en première page du Journal de Montréal, un article signé Michel Auger qui avait beaucoup de contacts dans le milieu policier. Alors ce matin-là, moi j'arrive à Sequoia, puis à CKVL, au 211 rue Gordon, vers les 5 heures le matin. 4h30, 5 heures, j'arrivais à la chute. Il y a une camionnette, il y a un gars dans la camionnette avec son chien, c'est Mike Blass. Alors ce matin-là, Mike Blass sort du véhicule. Il était en liberté légale. Alors, il me dit, écoute bien, là. Moi, j'aimerais une chose. Que tu aurais la possibilité de contacter la famille, parce qu'il dit, dans l'article, il laisse sous-entendre que la famille est prête à verser un montant d'argent pour connaître l'endroit où le corps de leur frère a été déposé. Et là, il me raconte l'histoire. Il dit, moi, là, j'achetais des affaires au niveau de l'antiquaire. Il me devait 10 000 piastres. Je l'ai amené en voiture, en camionnette avec moi. J'ai demandé de me donner mon 10 000. Il n'a pas voulu. Il y a eu une bagarre, il y a eu une chicane, un coup de feu parti. Il a été atteint. Il souffrait tellement Je voulais pas le laisser souffrir. J'y ai donné la deuxième shot.
Il l'a achevé.
Il l'a achevé.
C'est ça qu'il t'a raconté.
Ouais. Alors là, il me dit, écoute bien. Tu vas contacter la famille. Puis tu vas leur dire que t'as une possibilité de savoir où est le corps de leur frère. Mais j'ai dit, écoute, Mike, moi, je peux pas faire ça, voyons donc. Il dit, tu parles pas aux policiers de ça avant. Puis demain matin, je vais te rappeler à telle heure sur ton téléphone. Alors, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Puis c'est sûr et certain que la police va être mise au courant de ça. La famille va appeler. Alors, j'ai appelé à la Sûreté du Québec et j'ai parlé avec M. Prud'homme, Martin Prud'homme, que les gens vont se rappeler, qui était directeur général de la Sûreté du Québec puis est en charge des crimes contre la personne à l'époque. Alors, j'ai raconté ça. Il m'a dit, laisse-moi faire des téléphones. Il m'est revenu. Il dit, on a contacté la famille, puis la famille avait laissé entendre aux policiers, si quelqu'un peut avoir des informations, c'est bien Claude Poirier, parce que il connaît Mike Blass. Alors, je suis parti, première fois dans ma vie, je ne pouvais pas m'imaginer ça. J'ai été rencontrer la famille, c'est dans le coin de Saint-Jérôme. Alors là, j'ai rencontré la famille. Puis j'ai dit, j'avais eu des contacts avec Mike Blass qui m'avait appelé. Puis j'ai dit, il est prêt. Vous avez offert 10 000 $. Il est prêt à me dire où est le corps de votre frère. Moi, je vous dis pas que vous devez le faire. Vous avez parlé avec la Sûreté du Québec. Les frères, deux de ses frères, a dit, ils ont dit de s'arranger avec vous. Alors, j'ai discuté avec la famille, puis je leur ai dit que je devrais avoir un téléphone de Mike Blass le lendemain matin qui me donnerait des directives, moyennant si ça fonctionnait. Alors, il avait préparé l'argent.
Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même doutez-vous que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellette. Et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado.
Ce n'est qu'une théorie est récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022.
Moi, je suis parti avec le 10 000 $ de la famille de cet antiquaire-là. Dans ma voiture. Et là, Mike Blass m'avait dit, la veille, l'argent, là, c'est mes deux garçons, mes deux filles.
Il voulait donner l'argent à sa famille.
À sa famille. C'est l'argent que, supposément, l'antiquaire, il devait. Il dit, moi, je veux rien, on va avoir une scène. Puis il dit, si t'as des dépenses, tu prendras. Moi, il n'y a pas question de dépenses, là. Alors, le lendemain matin, j'ai dit à Martin Prud'homme, je suis en possession du 10 000 $ de la famille. Il dit, nous, la Sûreté du Québec, on n'embarque pas là-dedans. C'est une affaire de famille avec toi. Mais, côté humain, ils veulent savoir où est-ce qu'est le corps de leur frère. Alors, on n'interviendra pas. À quelle heure que Mike Blass t'appelle? J'ai dit, Mike Blass va m'appeler probablement d'avant-midi. Et, comme de fait, il m'a appelé. Puis là, la Sûreté du Québec m'avait demandé s'il y avait possibilité d'enregistrer la conversation. J'ai dit non. Moi, je n'enregistre pas la conversation sans avoir le feu vert de Mike Blass. Il m'a dit, t'as le 10 000? J'ai dit oui. OK. Viens-toi-en vers le nord, Saint-Michel-des-Saints. Puis il dit, en cours de route, m'a t'appelé. Non, mais j'ai dit, tu me donnes pas de plan? Il dit non, il n'y a pas de plan. M'a donné des directives. Alors là, j'ai appelé la Sûreté du Québec, Martin Prud'homme. J'avais dit à Mike Blass, je suis obligé d'aviser la Sûreté du Québec. Là.
Tout le monde était au courant que tout le monde était dans dans la boucle. Là.
Alors, la caravane est arrivée.
Les policiers, tu veux dire?
Ouais, j'appelle ça la caravane. 5-6 voitures fantômes, puis des gars d'urgence, puis tout ça. Puis là, oublie pas, on est en hiver. Alors là, je monte là-bas, à Saint-Michel-des-Champs, puis là, il me dit, à tel endroit, il y a une affiche jaune, puis tu tournes vers la gauche, puis tu vas vers la droite, puis c'est ci, puis c'est ça. Ils ont fait des recherches toute la journée. On a couché là. Le lendemain, ils ont fait des recherches. On n'a pas trouvé le corps.
Ah ouais, vous avez cherché.
Ouais, c'est sûr que Mike m'avait dit, quand il est arrivé ça, je l'ai pris, après ça, je l'ai shooté par-dessus le banc de neige, puis il a dû rouler. Et c'est quand que Mike Blass a été arrêté par la Sûreté du Québec, là, dans le Goussorel.
Pas très longtemps après, au fond.
Pas tellement longtemps. C'est lui qui a dirigé les enquêteurs des crimes contre la personne, puis ont trouvé le corps de ce monsieur-là en question.
L'antiquaire.
L'antiquaire. Mais moi, entre-temps, j'avais rencontré les enfants. Une fille, une de ses filles à Mike. Et j'ai été porté le 10 000 $. Ça a été divisé par la famille.
C'était un peu immoral, quand même, hein?
C'est un peu immoral. Mais moi, j'avais dit aux gens, écoutez, puis moi, je prends témoin les membres de la famille. C'est eux autres qui ont affaire de payer pour savoir où était le corps. Fait que quand le corps a été trouvé, les restes qui restaient, puis il a passé une partie à cet endroit-là, ils ont pu faire leur deuil d'une certaine façon. C'est la première fois que je voyais ça dans toute ma carrière, moi.
Je pense que c'est l'unique fois où t'as contribué à chercher un
jamais,
corps.
Jamais vu ça, payer pour savoir où est le corps.
Claude, t'as rencontré des individus dangereux, plus que dangereux. Puis je t'ai déjà entendu dans plusieurs entrevues. T'as une vision qui correspond pas à la moyenne des gens, et surtout du milieu journalistique. Pour toi, la parole d'un criminel peut valoir autant que la parole d'un policier.
Officiel, j'ai vu ça dans ma carrière.
Puis pour toi, une information peut être aussi bonne quand elle vient du monde criminel que quand elle vient du monde policier. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi sur le fait que tout le monde a un intérêt à parler. Et les policiers ont aussi un intérêt à parler.
Quand la police donne de quoi un journaliste, il s'attend en retour d'avoir le retour de l'ascenseur. J'ai vécu ça dans ma carrière.
Un service des communications, ça sert à communiquer et donc ça sert à bien paraître. C'est ça, on est d'accord. Que ça soit la police, que ça soit n'importe quelle compagnie. Mais en matière de criminels, t'as quand même rencontré un phénomène. T'as rencontré Jacques Mérine. Et tu l'as rencontré une première fois, tu l'as vu lui et sa compagne Jeanne Schneider au moment du procès de la mort de
Madame Leboutier. L'aubergiste Madame Leboutier, qui avait été accusée d'avoir tué l'aubergiste Madame Leboutier pour un vol de bijoux.
Mérine et Jeanne Schneider étaient accusés d'avoir tué Evelyne Leboutillier.
C'est ça.
Leur avocat que tu connaissais très bien.
Maître Raymond Daou qui m'avait approché, qui m'avait appelé. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu avec Raymond Daou couvrir le procès. Et grâce au travail de Raymond Daou et un enquêteur privé, le couple Schneider-Mesrine ont été acquittés.
C'était la première fois. L'ambiance du procès, là,
c'était épouvantable parce que c'était en Gaspésie, puis là, c'était épouvantable. C'était une aubergiste, elle. Puis elle avait été tuée et étranglée. Et les gens n'en revenaient pas, mais il avait été acquitté grâce au travail de maître Raymond Daou.
Tu assistes au procès de Jacques Mérine, de Jeanne Schneider, dans l'affaire Leboutillier, menée par Raymond Daou, un plaideur exceptionnel. Est-ce que tu penses, toi, que la personnalité de Mérine, la qualité de plaidoirie de Daou ont joué vraiment dans l'acquittement?
Ben c'est sûr. Puis surtout la plaidoirie de Maître Daou, parce que Maître Daou, c'était un des grands plaideurs que j'ai connu, moi, dans ma carrière, avec Léo René Maranda, puis d'autres grands avocats, Maître Michel Brault, qui est venu par la suite à la Cour d'appel du Québec, puis Maître Raymond Daou, c'était un grand plaideur. Et c'est lui, c'est sûr que ça l'a aidé. Quand les gens voyaient Harvey dans une ville, que ce soit en Gaspésie, puis tout ça, puis il va y débarquer un gars comme Raymond Daou, la réaction du monde, c'est une cause importante parce qu'un grand criminaliste se déplace. Alors ça, c'est sûr et certain que Raymond Daou, qui a sauvé énormément de gars de la potence, parce qu'à cette époque-là, on pendait au Canada, ça l'a définitivement joué. Mais le travail de l'enquêteur privé que Raymond Daou avait engagé en France a aidé également à sauver Jeanne Schneider et de Jacques Messrine. Et moi, j'avais pas parlé à Messrine, j'avais pas parlé à Jeanne Snyder. J'ai eu l'occasion de recevoir des cassettes de Jacques Messrine, qui avait envoyé une cassette à Raymond Daou, qui était devenu propriétaire du journal Photopolis, puis dénonçait la situation au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, et surtout au CDC, c'est-à-dire où on gardait des détenus très dangereux au CDC, puis disait qu'on en faisait des bêtes.
Les quartiers de haute sécurité.
C'est ça. Alors, moi, un jour, il y a eu une évasion au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, où des gens se sont évadés, dont Jacques Messrine.
Jacques Messrine et Jean-Paul Mercier.
Jean-Paul Mercier. Ils sont même revenus pour essayer de faire évader d'autres détenus.
Ouais, c'était pas l'opération du siècle. Là. Ils se sont fait tirer dessus.
Ils se sont fait tirer dessus, puis ça a été assez spécial. Il y a eu un grand documentaire dans lequel j'ai participé. Et un jour, je suis allé au restaurant Le Sambo. J'habitais dans l'est de Montréal et j'étais au restaurant Le Sambo. Je m'arrêtais des fois, j'arrêtais de prendre un Perrier ou un verre de 7-Up. Je rencontre le portier à la porte. Il me dit « Bonjour, comment allez-vous? Ça va pas mal. » Il dit « Moi, j'étais à votre place, je m'en irais aux toilettes. » Ben, j'ai dit « Parce que je vais aller au bar. » Il dit « Allez-vous-en aux toilettes, puis je vais avoir l'occasion de peut-être de vous revoir tantôt. »
T'as pas trouvé ça bizarre?
J'ai trouvé ça bizarre. Comment se fait-il qu'il veut que je m'en aille à la toilette? Alors, je suis à la toilette. Puis à cette époque-là, on fumait dans les toilettes. On commence à fumer une cigarette, deux cigarettes. Alors, à un moment donné, la porte s'ouvre et c'est Jean-Paul Mercier qui rentre.
Faut remettre Jean-Paul Mercier dans le contexte. Là. Jean-Paul Mercier, c'est un braqueur de banque.
Braqueur de banque, s'est fait tuer par l'escouade des vols à mermé au coin de Jean Talon et Pineuf un matin.
C'était un gars...
Un gars spécial, il faisait des hold-up avec Messrine dans les banques. Alors, je suis dans les toilettes, mais je ne l'ai pas reconnu au départ parce qu'il était déguisé. Et là, il y a un gars qui me rentre et me dit « Écoute bien, je suis Mercier, là, Jean-Paul. » Le français va venir te voir tantôt. Je dis quoi, français? Alors, moi, ça faisait 10 minutes, 10, 12 minutes que j'étais dans les toilettes. Là, il y a des gens qui revenaient dans les toilettes. Alors, moi, pour éviter que ça pose des questions, je me suis mis debout sur le banc des toilettes jusqu'au moment où Jacques Messrine est entré. Alors, là, il m'a regardé. Il m'a dit, t'as reçu la cassette? J'ai dit oui. Bon. T'as fait avec, j'ai dit, moi, je vais la diffuser. Il dit, Raymond Daou, Neuillen aussi. Fait qu'il dit, je vais te donner des nouvelles par l'entremise de Justine Derez, parce que c'était sa compagne de vie au Québec. Moi, j'ai dit, là, je peux pas sortir d'ici. Dites au portier, quand vous allez être parti, de sortir. Il y avait toutes des armes dans un sac, puis il mangeait en arrière des feuilles de plastique, des feuilles de il y avait des fleurs en plastique. Puis il était caché dans le fond. Il y avait Derej, Francoeur, Mercier, puis Messrine. Alors j'ai attendu à peu près 15 minutes. Et quand le maître d'hôtel est venu me voir, « Monsieur Poirier, moi j'étais debout sur le banc, parce que j'osais pas, il y a des gens qui venaient aux toilettes. »
Tu veux dire que tu étais debout sur la toilette?
Toilette, je me suis dit qu'il reste sur le banc de la toilette, puis j'étais debout. Puis... Fait que là, il m'a dit, « Vous pouvez sortir. » Ils sont partis. Alors, je suis sorti. Mais au moment où je suis sorti, il y avait un char de police qui enquêtait sur un véhicule avec une lumière de brûler. Je me suis dit, s'il avait fallu que je sorte avant, qu'est-ce qu'il aurait pensé? Probablement qu'ils ont sorti par la porte de côté puis sont allés dans le stationnement en arrière et ils ne stationnaient pas en avant. C'était la première fois que j'ai eu l'occasion de voir Jean-Paul Mercier et Jacques Messrine. Jusqu'au jour où j'ai reçu un appel. Parce que là, il est parti, il s'est en allé en France, il est allé en France, puis tout ça.
Des années plus tard.
Alors, lui, là, il s'en va à Paris. Et je reçois un appel. C'était Justine Derej qui m'a appelé. Elle était dans un motel à Chamédé, ville de Laval. Elle me dit, est-ce que tu peux venir me rejoindre à telle chambre à Laval? Alors, je me suis dirigé. Jusqu'à 2h30 du matin, le téléphone a sonné. On passait par différentes lignes, je ne sais pas comment ils ont fonctionné. Puis à un moment donné, elle a dit « Oui, Jaco? » « Oui, il est avec moi. » Là, Messrine est au téléphone. Elle m'a dit « Est-ce que as-tu vu Paris Match? » J'ai dit « Oui, j'ai vu Paris Match. » Tu as accordé une entrevue à une journaliste à Paris Match.
Il était en première page du Paris Match.
C'est ça. Et il dit « Si tu viens à Paris, tu arrives à Charles de Gaulle, il y a quelqu'un qui va te contacter. » Puis je vais t'accorder une entrevue. Puis là, il avait fait une erreur monumentale. Il s'en était pris au journaliste, qui était un ancien policier. Il l'avait amené dans une grotte. Il l'avait déshabillé, flambant nu.
Laissé pour mort.
Laissé pour mort. Puis le gars n'est pas mort. C'est ça qui a amené que Messrine s'est fait prendre.
Oui, puis à l'époque, Messrine. Il était avec Charlie Bauer.
Un spécialiste des évasions.
Et puis un gars qui était aussi dans plus ou moins dans le terrorisme.
C'est ça.
Et c'est par Charlie Bauer que les policiers sont remontés grâce à la blonde de Charlie Bauer. C'était toute une histoire. Mais c'est vrai que ça a été le début de la fin de la carrière de Messrine.
C'est ça.
Et donc ça s'est fait à ce moment-là. Tu aurais pu finalement le rencontrer. Est-ce que tu serais allé à Paris?
Ah oui, c'est officiel. Parce que ça aurait été très gros, puis j'aurais pu vendre l'histoire.
Ça aurait été énorme. Messrine.
Puis il y avait eu un lien de confiance qu'il avait eu face à moi. Puis c'est sûr que Daou avait des contacts, c'est sûr et certain. Alors c'est sûr que Daou a dû dire, tu peux te fier à Claude Poirier.
Mais il était passé par Jocelyne Derèche pour être en contact avec toi.
Ben oui, parce qu'il y avait c'était le seul contact qu'il avait, à part peut-être Daou. Bon, j'ai dit parfait. Il dit, il va y avoir quelqu'un qui va te contacter, j'ai pas de dessin à te faire. Je savais que ça pouvait être Derèche. Il avait écrit, envoyé une cassette pour dire « Je suis dans un endroit que je ne pourrai jamais m'évader quand tu vas entendre cette cassette-là. »
Oui, c'est sa dernière cassette.
Sa dernière cassette.
Pour rester sur Messrine, là, cette invitation à faire cette entrevue en France, elle s'est faite peu de temps avant qu'il meure, donc tu n'as jamais pu la faire.
J'ai jamais pu la faire. J'étais au Palais de Justice. J'étais au Palais de Justice un après-midi. Je descendais l'escalier mobile. J'ai entendu des policiers dire « Bon, ben, le chien sale, il s'est fait pluguer en France. »
T'as compris qu'ils avaient eu Messrine.
Qu'il y avait Messrine, il avait fait son précédent. Oui.
As-tu des contacts ensuite avec sa compagne de l'époque? Est-ce que tu t'as
reparlé? Non, j'ai parlé à sa fille. J'ai reçu sa fille. Sa fille, à Messrine, est venue à mon studio à CKVL, à l'époque où je faisais l'émission La Filière. Et j'ai interviewé sa fille. Et j'ai parlé avec le policier qui avait fait un livre. Je cherche le nom, là.
Il y en a plusieurs qui ont participé à l'enquête.
Non, celui qui avait déjà pris du champagne avec lui. Là.
Ah, Broussard, le commissaire Broussard.
Ah, commissaire Broussard, je l'ai eu en onde. À Broussard, dans le cadre de mon émission La Fille, j'avais fait une entrevue avec lui. Et j'ai eu l'occasion de recevoir la fille de Jacques Messrine, qui a passé par la suite à quelques reprises dans des émissions de télévision en France.
Mais il avait tendance à enjoliver un peu sa carrière.
Ah oui, mais pas juste ça, c'est parce que lui, s'il avait fonctionné comme il faut, il a fait la guerre aussi en Algérie, il aurait pu réussir à être bien dans sa vie, il a choisi le milieu criminel. Quand tu regardes Blas, tu regardes Messrine, tu regardes tous ceux qui sont tombés, là, qui sont partis, là. Moi, les gars que j'ai côtoyés ou j'ai vus à cause de mon métier ou qui des gens m'ont fait confiance, c'est tous des gens qui n'ont pas vécu vieux, hein. Tout en bas de 50 ans, puis pas du temps.
Le monde criminel, il vieillit pas beaucoup. Quel parcours incroyable que celui de Claude. Et à propos de gens qui ne vieillissent pas beaucoup, il fait partie de ceux qui ont frôlé la mort de près, et pas pour les raisons qu'imaginent la plupart des gens, mais à cause de ceux qui ont voulu le tuer. C'est ce dont nous allons parler avec lui dans le prochain épisode. Ce balado est une production exécutive Ghostscript Media pour la société de production Cube Radio. La musique est tirée du registre musical de BAM Music, la réalisation est d'Alexandre Pépin et le mixage de Philippe Séguin. Je suis Stéphane Berthomé, j'anime ce balado que j'ai scénarisé, la recherche ayant été menée par Jean-Baptiste Hervé. Merci encore de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous et à bientôt, j'espère.